Bonsoir, bienvenue dans cette édition des Tribunes de la Presse qui vous propose deux thèmes à savoir. Assemblée nationale, ouverture ce jeudi de la session extraordinaire de la nouvelle législature. Une session qui s'est ouverte avec l'absence remarquable des députés de l'UDPS et alliés. La marche des chrétiens empêchée hier jeudi à Kinshasa par la police nationale congolaise. Quoi qu'on frère journaliste participe à ces débats, il s'agit de Laurel Kankolé, il est journaliste au journal Forum des As, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Laurel Kankolé.
Bonsoir Guy.
Jean-Pierre Tshisekedi, il est éditeur du journal Multimédia News, c'est un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Jean-Pierre Tshisekedi.
Bonsoir cher confrère.
Et Baba Isaac Kalonji, il est journaliste et analyste indépendant, évoluant en Mbujimayi au Kasaï Oriental. Bonsoir Baba Isaac Kalonji.
Bonsoir estimés confrères.
Ouverture de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale. La police nationale congolaise étouffe la marche des chrétiens ici à Kinshasa. Écoutons cette revue de presse que nous présente Kéline Kouté pour savoir comment la presse a traité ces différents thèmes.
Bonsoir. La session extraordinaire de la nouvelle Assemblée nationale et la marche des chrétiens réprimée hier font la une des journaux quinois ce vendredi. L'UDPS à la tête de l'Assemblée, c'est le titre que l'on peut lire à la une du quotidien Forum des As. Ce journal reprend un extrait du discours du président du bureau Timothée Kombo qui invite les députés à rompre avec la culture de la complaisance. De son côté, la tempête de tropique constate que la session parlementaire de février s'ouvre sous haute surveillance policière. Ce quotidien relève aussi dans cet article l'absence des députés de l'UDPS. Le potentiel titre aussi ce matin Assemblée nationale. UDPS préside le bureau provisoire. Le journal rapporte que c'est Timothée Kombo Kissi, élu de Madimba dans le Bas-Congo, qui préside le bureau provisoire de cette institution. En tant que doyen des élus, c'était à l'absence des autres députés élus de la liste de l'UDPS Tshisekedi, ainsi que ceux des partis membres de la dynamique Tshisekedi président. Voilà qui pousse la prospérité à signer paix et réconciliation à l'Assemblée nationale. Marche des chrétiens, c'est le potentiel qui ouvre le bal en titrant la marche des chrétiens réprimée. Le quotidien rapporte que, programmée pour le 16 février, interdite le 15 février par l'autorité urbaine, la marche des chrétiens a été réprimée, dispersée par les éléments de la police. Sans égaler la violence de 92 ayant entraîné mort d'homme dans sa virulence, le déploiement des éléments de la police ce 16 février 2012 a été impressionnant et les policiers ont opéré sans ménagement. La référence quant à elle constate qu'une agressive intervention policière a empêché la manifestation appelée par l'Église catholique. Ce quotidien rapporte que des policiers ont attaqué à coups de gaz lacrymogène une dizaine de paroisses catholiques, 4 prêtres et 2 religieuses arrêtées et des jeunes sportifs armés de bâtons et de pierres affiliés à un parti politique ont attaqué les fidèles de la paroisse Saint-Augustin de Lemba. De son côté, l'avenir voit les choses aux antipodes des signes archidiocèse de Kinshasa. Le ballon dégonflé, le journal note que la marche des croyants organisée par l'Église catholique à travers le Conseil de l'Apostolat des laïcs catholiques congolais a récolté un échec cuisant. Ceci parce que dès le départ, la marche a été interdite par le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbutayango, raison pour laquelle tôt le matin, les agents de l'ordre ont été déployés dans les grands carrefours de la ville de Kinshasa pour disperser tous ceux qui voulaient marcher non seulement pour politiser cette date mémorable du 16 février, mais aussi pour troubler l'ordre public. Il faut retenir que parmi les autres sujet. Et on fait la une des journaux cette semaine, figure les crashs survenus à l'aéroport de Kavumu à Bukavu et ont coûté la vie à l'honorable Augustin Katuba Mwake, le 8e anniversaire des accords de Mboudi ainsi que la position des États-Unis d'Amérique par rapport au processus électoral en RDC.
Merci. Kelly Nkouté, un commentaire par rapport à cette revue de presse. Laurel Kankolé, vous êtes journaliste au journal Forum des As, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. L'actualité, c'est aussi, on venait de l'évoquer dans la revue de presse, le décès de l'honorable Augustin Katumba Mwake dans un crash d'avion le dimanche dernier à l'aéroport de Kavumu à Bukavu.
Oui, je crois. C'est une fatalité à laquelle personne ne peut se soustraire et personne ne pouvait prévoir qu'un tel crash allait coûter la vie à Augustin Katumba Mwake, qui a joué des fonctions importantes aux côtés du chef de l'État, mais on n'en pire rien, c'était le destin, la nature en a décidé ici, on l'a regretté, mais bon, il n'y a pas de choix. Si tout ne dépendait, je crois que des Congolais, peut-être que ce crash aurait pu être évité, mais voilà, c'est la nature.
Jean-Pierre Tshisekedi, éditeur du journal Multimédia News, c'est un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. L'autre actualité, c'est le 8e anniversaire des accords des Mboudi. Et l'intersyndical national du secteur public constate que le barème salarial des Mboudi n'est toujours pas appliqué.
Merci pour la parole. Je crois que nos compatriotes qui souffrent depuis de belles lurettes avec cette situation de Mboudi, et nous croyons que avec l'avènement de nouveaux élus, le gouvernement qui sera bientôt installé, peut-être ils prendront en compte, n'est-ce pas, les desiderata de nos enseignants qui ont souffert longtemps dans ce pays, surtout pendant cette législature, surtout pendant tous ces temps ici. Je crois que ceux qui vont venir viendront avec la conscience, ils tiendront compte de ceux qui se sacrifient pour nos enfants. Ils sont sacrifiés.
Merci Baba Isaac Kalonji, journaliste, analyste indépendant à Mbujimayi, au Kasaï Oriental. Quelle est l'actualité qui domine là à Mbujimayi?
L'actualité, c'est au niveau social, ce sont les détournements des salaires de tous les administratifs du territoire de Ngandajika. Le voleur a reconnu les faits, il a promis de payer. L'actualité aussi, c'est le manque d'eau potable et de l'électricité. Et aussi l'absence de l'autorité provinciale qui est en session chez vous à Kinshasa.
Merci. Notre premier thème de ce soir, Assemblée nationale, ouverture ce jeudi de la session extraordinaire de la nouvelle législature. Une session qui s'est ouverte avec l'absence remarquable des députés de l'UDPS et alliés. La session extraordinaire de la deuxième législature s'est ouverte ce jeudi. Hormis le discours de bienvenue du secrétaire général ad intérim de l'administration de l'Assemblée nationale, un seul point était à l'ordre du jour, à savoir la mise en place du bureau provisoire. Ce bureau, dirigé par les doyens d'âge assistés des moins âgés, aura une triple mission: la validité du pouvoir des députés, l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ainsi que la mise en place du bureau définitif. Quand bien même que les quorums étaient atteints, l'absence des élus de l'UDPS et autres députés élus de partis de l'opposition à l'ouverture de cette session était très remarquable dans l'hémicycle. Jacques-Yves pour le reportage.
350 députés ont répondu présents à cette session extraordinaire, selon le secrétaire général de l'administration de l'Assemblée nationale, sur les 482 que compte la chambre basse du Parlement en ce moment. 132 ont soit été empêchés, soit absents. Parmi eux, les élus de l'UDPS, ainsi que les élus membres du soutien à Étienne Tshisekedi 17. Seul membre de l'UDPS présent dans la salle, c'est le doyen d'âge, président du bureau provisoire, Timothée Nkombonkisi, qui n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils dans son mot de circonstance.
Puis-je rappeler que le mandat du député est, au terme de la Constitution, non impératif. Les Congolaises et Congolais qui nous ont élus attendent de nous le changement dans notre manière de servir l'État.
Par ailleurs, le secrétaire général a tenu à souligner que les députés de cette mandature devront se pencher plus sur le social du peuple congolais.
Cette Assemblée nationale ne manquera pas d'être l'objet d'interpellation de la part de ce peuple qui attend la prise en compte des conditions sociales qui doivent dorénavant dominer les débats politiques, la consolidation de la paix, l'unité et la cohésion sociale appelées par les défis du temps.
Notons enfin que la session plénière est prévue pour ce vendredi 17 février 2012.
Laurel Kankolé, d'abord parlons ambiance. On assistait hier à une certaine convivialité au sein de l'hémicycle. Les élus semblaient joviales. Comment vous avez réagi face à cette ambiance?
Oui, ça c'est une lecture personnelle de l'événement. J'ai toujours personnellement condamné ce que j'assimile au folklore politique au Palais du Peuple. C'est le siège d'une importante institution, mais quand on doit transformer le siège du Parlement à un esplanade de festival de musique folklorique pour agrémenter une session futile, même souvent c'est quand on interpelle même un membre du gouvernement, il y a toujours des fan clubs derrière, des militants, des sympathisants qui l'accompagnent, et puis ça fait typiquement congolais. Je crois que c'est des questions sérieuses et l'Assemblée nationale est une institution très sérieuse. Moi je n'ai jamais été favorable à ce décor.
Jean-Pierre, qu'est-ce que tu dis par rapport à l'ambiance?
Par rapport à l'ambiance qui s'est passée hier à l'Assemblée nationale, je rejoins mon confrère
Laurette Kankolé.
Au fait, Nous devions faire la politique autrement. Et je crois que même les élus qui sont venus pour cette deuxième législature, ils doivent faire la politique autrement au palais du peuple. On n'a pas besoin de toutes ces chansons. En fait, ce sont eux-mêmes qui payent leurs militants, qui les suivent, qui viennent chanter pour eux, au fait pour se faire voir, au fait pour prétendre avoir une certaine influence sur les autres.
Mais la convivialité entre les élus, c'est quand même quelque chose de très appréciable, non?
Ça doit se faire en dehors du Parlement. Au Parlement, on ne vient pas danser, on ne vient pas jouer.
Baba Isaac Kalonji, certainement que vous avez suivi l'événement à la télévision. Comment vous réagissez par rapport à cette ambiance?
Non, je sais seulement qu'il est question de définir les contours de l'ambiance qui règne à l'hémicycle. D'abord, parce que la mission confiée aux députés est intense et elle a des exigences assez compliquées par rapport à la situation sociale et économique du pays. Ils peuvent se réjouir. Pourquoi? Ils se réjouissent parce qu'ils savent comment ils sont venus au Parlement. Ça, c'est un. Deuxièmement, est-ce qu'un Congolais, à l'état où nous nous trouvons aujourd'hui, peut-il chanter la gloire de qui et pourquoi au Parlement, alors que la tâche qu'il attend est d'une importance capitale, de haute portée nationale? Ça, c'est du folklore. Il faut enrayer ça de l'hémicycle. Il faut enlever les courtisans flatteurs qui chantent pour les députés et qui ne donnent pas l'occasion à ces députés de réfléchir pour l'avenir et le devenir du Congolais. Je suis très désolé.
Merci, Laurel Kankolé. La première session de la nouvelle législature s'est ouverte hier à l'Assemblée nationale. Presque tout le monde était là. Il y avait aussi quelques membres de l'opposition, sauf évidemment les élus de l'UDPS ainsi que les alliés de ces partis politiques. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça?
Oui, Guy, je crois que c'est important dans la mesure où l'absence de l'UDPS, qui est un grand parti politique de l'opposition dans le contexte actuel, n'a rien influé sur le cours des travaux au niveau de l'hémicycle. Je crois, ce qui s'est observé hier, et je suis convaincu qu'au niveau du directoire politique de l'UDPS, on avait tous les résultats provisoires des législatives du 28 novembre, on devrait s'asseoir et examiner à fond l'option qu'on avait levée au départ. Je crois si l'UDPS avait la majorité au niveau de l'Assemblée, l'UDPS est allié bien sûr, la majorité absolue, cela allait peut-être gripper la machine de l'Assemblée nationale. Dès lors que l'UDPS est allié, n'aligne pas la moitié des effectifs à l'Assemblée nationale, ça veut dire simplement que c'était déjà un échec à l'avance.
Et si vous pensez que l'absence de l'UDPS, si réellement elle est absente pendant toute la législature, vous pensez que cette absence va arranger la majorité?
Non, Guy, excuse-moi, c'est pas parce que c'est l'UDPS, mais nous devons nous référer au texte. Que dispose le texte? Que dit la Constitution? La plénière a lieu lorsque le quorum est acquis, le quorum exigé est acquis. Donc la majorité absolue de 252 membres. Dès qu'on a 252 membres, on siège. Or l'UDPS, jusqu'à preuve du contraire, n'aligne même pas 60 députés.
C'est sur le plan juridique et par rapport aux conséquences politiques.
Je n'en trouve pas une. La preuve est qu'en 2006, on a eu une première législature sans l'UDPS et nous sommes arrivés à la fin.
Mais il y avait quand même l'opposition là-dedans.
Oui, il y avait l'opposition, mais est-ce que cela a entravé le bon fonctionnement de la Chambre basse? Je pense pas.
Et j'appuie, tu sais qui est dit, le bureau provisoire de l'Assemblée nationale est présidé par un député UDPS, tu sais qui est dit. Quelle appréciation peut-on faire de cela quand on se rappelle la position prise par le président de l'UDPS par rapport à la participation de ses alliés à l'Assemblée nationale?
Par rapport à la position prise par le leader de l'UDPS, je crois que il y a à boire et à manger aussi dans ce que nous appellerons opposition au Congo, mais aussi ça ne devrait pas être un rendez-vous manqué. Je crois que on en a vu de trop. Cette fois-ci, moi j'encourage que c'était une décision responsable de ne pas encore faire la politique de la chaise vide, et que le monsieur se soit représenté. C'est quelque chose que nous devons d'abord encourager, au-delà de toutes les considérations, au-delà de tout ce qui s'est passé dans ces élections où il y a eu à boire et à manger, mais au fait, la nation doit survivre. Voilà.
Et donc vous comprenez l'attitude du président Timothée Kombo?
Je crois que son attitude est appréciée par tous les Congolais, y compris ceux de l'UDPS. Mais ce qu'il faut souligner,
c'est vous qui l'avez dit.
Oui, je le dis en connaissance de cause. Je suis analyste politique, je suis journaliste, je pèse mes mots, je sais ce que je suis en train de dire. Mais de toute façon, sa présence n'empêche pas à ce que la voix soit entendue d'une autre manière dans cette jeune démocratie. Parce que, vous savez, la position que prend UDPS et Alliés aujourd'hui, c'est bien que mon estimé confrère venait de souligner que ça ne pourrait rien changer, mais moi je crois que dans une démocratie, on doit avoir toutes les considérations. C'est au fait, faire voir à la face du monde qu'on est mécontent quelque part. Voilà, l'UDPS est en train d'amener toujours un autre son de cloche pour faire voir son mécontentement par rapport à ces élections qui est contestée, que ce soit même pas la majorité.
Et donc, si je comprends bien, l'absence de l'UDPS peut avoir des conséquences politiques.
Les conséquences politiques sont réelles. On ne peut pas négliger ça. Les conséquences sont réelles et que l'UDPS, c'est un grand parti dans ce pays. L'UDPS a mené un combat que personne ne peut ignorer dans ce pays, sinon qu'on ne soit pas grandi au Congo ou qu'on ne connaît pas la politique congolaise. Donc, nous devons les encourager. Aussi, ça doit ouvrir la voie aux autres pour ne pas faire le sourd d'oreille. Ils doivent entendre aussi.
Aux autres, c'est-à-dire
le pouvoir.
À la majorité.
À la majorité, voilà.
Baba Isaac Kalonji, la présence de l'élite de l'UDPS, Monsieur Timothée Kombo, a été diversement interprétée. Et vous, quelle interprétation faites-vous de cette présence?
Ici, au Kasaï oriental, où je me trouve, il y a trois manières de voir le comportement de l'honorable Kombo, doyen de l'Assemblée nationale, puis président du bureau provisoire. Son comportement peut être lié au comportement de Kibasa Frédéric, Liaou, Marcel et Mbouakem. Vous avez l'histoire à des vérités têtues qui sont difficilement immuables. Le comportement de ce combattant de la liberté qui siège à l'hémicycle comme président du bureau provisoire, vous devez l'interpréter de ces trois manières là-bas. On peut être à la fois combattant et on refuse le mot d'ordre de son leader. On fait ce qu'on peut faire au nom de ce que vous appelez politique de chaise vide. Mais la marche qui a été faite par tous les combattants, parmi lesquels se trouvent les thèses parlementaires dans ce pays, vous connaissez la suite. Donc on ne peut pas continuer à refaire la même chose plusieurs fois dans le même pays, pour le même peuple.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Il a fait défection dans sa composante opposition et qu'il est allé combler le vide pour faire respecter les principes de la chaise vide, tout à fait d'accord, mais on va voir jusqu'où il va aller avec cette assemblée, où il n'est qu'un seul son. Que va-t-il faire? Que va-t-il dire? C'est ça la situation. Le Parlement actuel ne peut pas s'arroger le droit de vouloir diriger le plénière par défi, c'est-à-dire la démocratie étant et la science qui veut que le peuple mandate ses élus au niveau du Parlement et qu'ils agissent au nom du peuple avec la protection de la minorité. L'Assemblée ne peut pas seulement tenir compte de la majorité dès lors qu'il n'y a pas de minorité. C'est absolument absurde. Il faut que les gens le sachent. Et je suis étonné de voir les juristes qui corroborent ce comportement et qui acceptent que le Parlement la siège sans minorité. Alors que la démocratie a des règles auxquelles il faut se conformer.
Mais il faut quand même rappeler qu'il y a quelques députés de l'opposition qui étaient présents hier.
Non, les infiltrés, c'est-à-dire ceux qu'on a débauchés, ils peuvent aller, il n'y a pas de problème. Mais ils ne nous donnent pas une leçon pour la chaise vide, non.
Vous pensez qu'ils ont été débauchés?
Oui, ils sont débauchés parce qu'ils ont reçu le mot d'ordre. Et puis, le mot d'ordre, c'est une pression exercée par la majorité pour que l'État congolais soit dirigé par une majorité, mais qui tient compte de la minorité. Mais c'est cela la démocratie. En dehors de ça, c'est la pétodière, c'est la confusion et c'est la comédie.
Mais il faut préciser que tous les élus de l'opposition ne sont pas tous membres de l'UDPS ni alliés de l'UDPS. Et donc ils ne sont pas tenus à se conformer à la consigne donnée par le président Tshisekedi.
Là c'est leur droit. Ok, ils peuvent aller, ils sont au nombre de combien, ils peuvent aller, mais ils n'engagent pas l'opposition là-bas.
Laurent Kakolé, vous venez de suivre Baba Isaac Kalonji qui a évoqué les cas des effets Kibasa, l'effet Liaoul, l'effet Mbwankem. Est-ce qu'il faut établir les liens entre ces personnalités et l'attitude qu'a affichée M. Timothée Kombo hier à l'Assemblée nationale?
Non, même s'il ne l'a pas dit, M. Baba, dont je respecte l'opinion, voulait simplement dire un petit mot que ceux-là étaient des traîtres, ils avaient trahi, et que M. Timothée Kombo également a trahi l'UDPS. Ça, c'est une opinion qui n'engage que son auteur.
Voilà.
Moi, je ne suis pas dans ce débat-là. Ce qui est plus important, à mon avis, je pense que nous devons éviter le piège de vouloir tout le temps rattacher l'opposition à ce l'UDPS. L'UDPS est un parti de l'opposition. Il est vrai que c'est le plus grand parti de l'opposition. Encore faut-il qu'aujourd'hui qu'on l'éprouve, après toutes les défections qu'il y a eu. Historiquement, c'est un grand parti politique de l'opposition. Mais est-ce que c'est le seul parti de l'opposition en RD Congo? J'y réponds tout de suite non. Dans la mesure où, aujourd'hui, si nous allons stratifier le nombre des députés qui ont été élus à la nouvelle Assemblée, la 10e législature, la 3e République, le MLC, parce qu'il parle du débauchage, est-ce qu'il va me dire que les 22 députés du MLC qui ont siégé hier ont tous été débauchés, pour ne prendre que cet exemple? Non, je crois que nous n'allons pas tomber dans les extrémités. S'il y a opposition, encore faut-il aujourd'hui que lui me dise qui représente l'opposition. L'opposition ne s'est jamais mise d'accord sur son porte-parole. L'UDPS n'a jamais ce statut de porte-parole de l'opposition. L'UDPS ne s'est jamais arrogé de ses prérogatives de représenter l'opposition à n'importe quel niveau. Non, ça c'est faux.
Et lorsque le président du bureau provisoire dit qu'il rappelle en fait que les mandats du député est non impératif, c'est vrai qu'il a raison, mais est-ce qu'on ne peut pas établir un lien entre la position de son parti politique qu'est l'UDPS et cette précision que lui a voulu souligner?
Oui, avant d'être membre de l'UDPS, je crois qu'il est politique et qu'il est responsable. Et s'il acceptait de se présenter, ok, il estime, il a analysé tout le concours de la question, il estime, à son âge, qu'il ne devait pas moisir dans l'opposition, et qu'il était temps, cher ami, mettons-nous d'accord. Si nous avons les mêmes bases, les mêmes fondamentaux de la conception de la politique selon Maurice Duverger, dans sa sociologie politique, quel est l'objectif d'un parti politique? C'est la conquête du pouvoir. Et si lui estime qu'après plus de 40 ans, qu'il n'a jamais eu l'occasion d'être élu, et qu'à 65 ans échu, lui il a...
75 ans
ouais. Échu, il arrive quand même à briguer mandat à la députation nationale. Y a-t-il vraiment un inconvénient? Dans quelles conditions il a été élu? Avec quels moyens il a fait sa campagne? Peut-être avec des moyens très précaires. Et aujourd'hui, la chance, en guillemets, lui a souri. Il estime qu'il faut aller au palais. Quand on dit le peuple d'abord, mais ce n'est pas dans la rue. C'est au sein des institutions qu'il faut défendre la cause de cette population. On ne peut pas mener des débats dans la rue et en même temps prétendre défendre la population. Moi, je n'en vois pas. Je crois aujourd'hui, s'il y a une opinion à laisser passer, c'est au sein des institutions. On ne peut jamais mener une démocratie sans contestation. La contestation, c'est le pouvoir qui reconnaît la contestation, et c'est au choc des échanges au sein des institutions qu'on peut balancer et trouver des issues pour la conduite de la nation.
Jean-Pierre Tshisekedi, comment vous comprenez l'attitude des députés de l'opposition qui étaient hier absents à l'Assemblée nationale? Peut-on considérer cela comme une certaine loyauté à l'endroit de M. Étienne Tshisekedi?
Oui et non. D'abord, je voudrais souligner quelque chose que mes co-débatteurs ont souligné par moment pour dire que l'UDPS, par rapport à l'opposition, ne renferme pas toute l'opposition. Écoutez, on ne doit pas faire de l'amalgame dans ce pays. L'UDPS, c'est la fille aînée de l'opposition. Et vous avez vu en dernière minute, tout le monde s'est rallié derrière l'UDPS. Donc, la joie de la minorité, selon ceux qui considèrent...
Une certaine opinion s'est ralliée derrière l'UDPS.
Oui, oui. Et l'UDPS est restée toujours la fille aînée. Incontournable, ça, nous ne devons pas nous voiler la face.
Oui, mais comment vous comprenez l'attitude des députés qui étaient absents? Est-ce que c'est une façon d'exprimer leur loyauté à l'endroit d'Étienne Tshisekedi?
Je l'ai dit tantôt, en politique, on doit toujours suivre un certain mot d'ordre, comme partout ailleurs, que ce soit dans la majorité. Ils suivent toujours un mot d'ordre, nous l'avons vu dans la législature passée, et ils n'ont pas été à la hauteur de la tâche que le peuple les avait confié. Mais écoutez, je vous ai dit tantôt que la position de l'UDPS et ses alliés, c'était une position pour faire entendre la voix autrement, pour dire qu'on doit considérer quand même la minorité. Et puis, il n'y a pas que les élus de l'opposition qui ont été absents. Et puis, c'était le premier jour. Et qu'il n'y a aucun risque, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan juridique. Ils ont encore tout le temps de se concerter. Jusque-là, aucun risque de perdre le mandat n'est souligné. Je voudrais aussi dire quelque chose. Nous ne devons pas, au fait, dissocier d'emblée et l'honorable Timothée Kombo, le président du bureau provisoire, avec son parti politique. Non, loin de là, c'est trop tôt. C'est trop tôt, en fait. Une certaine discrétion, nous sommes journalistes, nous dira peut-être qu'à la veille même, il a été recommandé. Peut-être ça a été officiel.
Il était recommandé par qui?
En fait, par son parti. Par son parti. Je ne confirme pas l'information. Mais une certaine indiscrétion nous dirait que le monsieur a été ordonné d'aller. Et que les autres devraient continuer la concertation. Je répète bien, je suis à la radio, je ne confirme pas l'information, mais nous ne devons pas dire d'emblée que voilà, il a désobéi à un certain mot d'ordre, parce que nous sommes sur terrain quand même, nous avons tout le temps de mener quelques enquêtes. Donnons encore le temps au temps, parce que ce n'est qu'un départ, ce n'est qu'un début, c'est en politique, il y a encore des concertations. Vous pensez que tous ces mondes-là tiendront au mot d'ordre du leader, avec les attitudes que nous connaissons de nos politiques congolais ici et tout ce qu'ils font. C'est pratiquement trop tôt pour donner de telles affirmations dans le temps au temps.
Baba Isaac Kalonji, comment entrevoyez-vous l'avenir? Est-ce que les élus de l'UDPS alliés pourraient revenir à l'Assemblée nationale?
Oui, mais il faut, à toute chose, il faut voir la fin. Moi, je pense qu'on aurait pu débrayer le terrain pour arriver au dialogue. Et comme tout le monde refuse le dialogue pour diriger par défi, tout le monde cherche les succès et l'échec du Parlement actuel. Parce que si on ne peut pas tenir compte de la position de l'UDPS aujourd'hui, mais demain ça produira des effets néfastes sur la conduite des affaires du pays. Ce n'est pas une affaire à traiter légèrement comme les autres le croient, comme les autres sifflent et chantent, non. C'est une affaire nationale, c'est une affaire d'une haute portée historique. Il faut que les gens comprennent qu'il est temps qu'on cohabite, qu'on se mette d'accord et qu'on échange au lieu de se présenter en vainqueur voulant diriger par défi. Il faut que les gens comprennent que la présence de l'UDPS dans l'hémicycle est nécessaire, mais ça doit se négocier parce que celui qui a donné le mot d'ordre fait une pression sur un pouvoir. Et le pouvoir doit comprendre ça. Et vous savez, ce qui nous a poussé à aller au dialogue à Saint-City, ce sont les belligérants qui avaient les armes. Mais maintenant, nous avons la démocratie, nous ne pouvons pas reprendre les armes. Il faut négocier, il faut échanger, il faut parler.
Baba Isaac Kalonji, si j'ai bien compris votre pensée, donc il faut au préalable des négociations avant que les députés de l'UDPS et alliés siègent à l'Assemblée nationale.
Oui, c'est ça ma démarche, au lieu d'utiliser la force militaire ou musculaire, mais on négocie, c'est ça le soubassement politique, on négocie. Mais celui qui évite la négociation, il dira pourquoi il évite, et on saura que c'est lui qui veut que le pays ne marche pas. Mais vouloir dire que la majorité, avec 300 députés, elle est contente, elle siffle, elle crie au Parlement, non, non, non. C'est pas maintenant avec la démocratie. Maintenant, là, il faut négociation, il faut qu'on échange, il faut qu'on parle vis-à-vis, face à face, au lieu de chercher que les gens se mettent debout pour criailler et faire n'importe quoi. Nous avons accepté la démocratie ensemble.
Merci, Baba Isaac.
Nous conformer aux exigences démocratiques.
Merci Baba Isaac Kalonji, nous avons compris notre deuxième thème de ce soir, la marche des chrétiens étouffée hier jeudi à Kinshasa par la police nationale congolaise. Hier matin, une centaine de manifestants sont parvenus à atteindre la paroisse Saint-Joseph dans la commune de Kalamu à Kinshasa, point de chute de la marche. Trois prêtres ont été arrêtés sur place. Dans beaucoup d'autres paroisses catholiques de Kinshasa, la police était intervenue pour empêcher la mobilisation des chrétiens. Paul Matendo pour les détails.
Dans quelques paroisses que nous avons visitées, les constats sont pratiquement les mêmes. Juste après la messe matinale, les chrétiens s'étaient rassemblés pour attendre le coup d'envoi de la marche. Seulement voilà, les dispositifs de la police déployés à travers la ville de Kinshasa n'ont pas laissé les fidèles libres de tout mouvement. À la paroisse Saint-Raphaël dans la commune de Limité par exemple, ils n'ont pu effectuer qu'une courte distance avant d'être dispersés par la police sous les coups de gaz lacrymogènes. Témoignage.
Notre objectif était d'atteindre la paroisse Saint-Joseph. Malheureusement, en route, nous avons rencontré la résistance des policiers.
À la paroisse Saint-Gabriel dans la commune de Kalamou, la police a également fait usage des gaz fumigènes pour contraindre les fidèles à vider l'enceinte de la paroisse. À Saint-Augustin dans la commune de Limba, des témoins indiquent que de jeunes sportifs ont tabassé des fidèles réunis en prière avant d'être dispersés par la police. La même source souligne qu'un jeune chrétien qui a escaladé la clôture pour éviter d'être tabassé se serait fracturé le bras.
Pendant qu'on priait, on a vu un groupe de sportifs. Tout a dégénéré à l'intérieur. Et même il y a quelqu'un qui s'est fracturé le bras, comme l'ami a dit.
Selon certains membres du comité organisateur, le combat démocratique devra se poursuivre jusqu'à obtenir gain de cause.
Les défenseurs des droits de l'homme ont assisté à la répression de la marche des chrétiens à Kinshasa. L'ONG Les Amis de Nelson Mandela fustige la brutalité avec laquelle la police a agi sur les chrétiens. En revanche, le commissaire général de la police nationale, Charles Bissengimana, affirme que la police était obligée d'empêcher cette marche puisqu'elle était interdite par les autorités de la ville. Il rejette par ailleurs toutes les accusations de violence portées contre la police. Laurel Cancolé, je rappelle que vous êtes journaliste au journal Le Forum des As, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. La marche des chrétiens a été empêchée hier ici à Kinshasa par la police nationale congolaise. Et comment vous analysez l'attitude de la police nationale?
Je dois préciser d'abord que ici, à ce sujet, je ne dis pas au nom du journal, ça c'est mon opinion personnelle, ça n'engage que moi et non la ligne éditoriale du journal, c'est très important que je précise. Ce sont les mêmes méthodes qu'on a vécu, qu'on a décrié il y a plusieurs décennies. Peut-être que c'était par un excès de zèle, et c'est le chef de l'État qui en paye finalement les conséquences. C'est lui qui assume. La marche n'est pas une nouvelle chose dans notre pays. Je crois qu'en toute démocratie, et la Constitution est claire à ce propos, je peux me tromper mais c'est pas sûr, c'est l'article 26. Qui garantit le droit à la manifestation. Et là, le législateur même dit que les manifestations sur les voies publiques ou en plein air sont autorisées. Les organisateurs doivent informer l'autorité administrative compétente. Ça, c'est la linéa 2 de l'article 26 de la Constitution. Ça s'arrête là. Ça veut dire simplement que nous sommes sortis du régime d'autorisation préalable pour le régime d'information. Et pour le régime d'information, on n'a pas un avis consultatif. Je t'informe, toi, autorité administrative, pour qu'enfin tu prennes les dispositions sécuritaires nécessaires pour encadrer, si tu en estimes important. Mais si tu estimes que c'est une manifestation banale, il n'y aura pas débordement, ok, tu peux laisser les manifestants se manifester librement jusqu'à atteindre leur point de chute. Mais si tu estimes il faut prévenir à toute éventualité, voilà, la police est là, on va vous encadrer. Je crois que c'est tout ce qu'il y a de démocratique dans ce pays.
Et au cas où l'autorité estime qu'il détient des éléments qui attestent que si cette marche est organisée, cela pourrait perturber l'ordre public.
Il peut pas. Là, il est juste en train d'énerver la Constitution, justement. Ce qu'on veut de l'autorité, c'est de prévenir, c'est d'encadrer la marche. Le nombre de policiers qu'il y a dans ce pays, plutôt dans cette ville de Kinshasa, que ce soit entre nous, je crois qu'on peut avoir un policier pour trois chrétiens, et ça ne sera pas insuffisant. Je suis convaincu que la marche d'hier n'aurait pas drainé autant de monde que la marche de 92, d'autant plus que le contexte a changé. Je crois qu'en politique, il y a deux éléments, c'est le relationnel et le contextuel. Au juste, sur le plan de contexte, le contexte de 92 n'est plus le contexte actuel. La marche de 92 a eu ce succès, pourquoi? Parce que ce n'était pas l'affaire de l'Église catholique seule. Certainement, l'initiateur était l'Église catholique, mais qui avait drainé toutes les autres églises, pourquoi? Parce que c'est tous contre seul. Seul, c'était Mobutu qu'on devait combattre. Et toutes les églises en ont fait leur marche. Vous n'allez pas me dire que parmi ceux qui ont marché le 16 février 92, il n'y avait que les catholiques. Non, c'était tout le monde. Mais aujourd'hui, le contexte a totalement changé. Au sein de l'église catholique, soyons sérieux, au sein de l'église catholique, vous ne me direz pas que Joseph Kabila n'a pas eu d'électeurs. Non, il en compte des milliers. Est-ce que cela allait marcher? Je réponds tout de suite, pas évident.
Merci. Japie Tshisekedi, je rappelle que vous êtes éditeur du journal Multimédia News, un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Comment peut-on mettre fin à cette polémique? Les uns disent que la marche a été seulement empêchée. Ça, c'est le point de vue du commissaire général de la police nationale congolaise. Tandis que les autres, notamment les ONG, disent que la marche n'a pas été seulement empêchée, mais elle a été aussi réprimée.
Merci beaucoup. Je crois que j'ai rejoint les ONG parce que moi-même j'étais sur terrain hier. Je crois que c'est hier. J'étais
sur terrain. Qu'est-ce que vous avez
j'étais vu? J'étais sur terrain. Je vais vous donner un cas que je vécu personnellement. C'est vers l'église Saint-Raphaël. Nous avions vu le manifestant, l'église, le prêtre sur la rue qui était en train de chanter. Et nous avons vu la police à un certain moment, au moins là, une certaine courtoisie, demandant aux autres, non, rentrez, sinon vous allez faire tuer les gens, ça ne vaut pas la peine. Curieusement, l'autre a entendu et il est rentré. Mais qu'est-ce que nous avons déploré? Nous avons vu apparaître le roi de la guerre, maintenant à Kinshasa, que nous connaissons tous, qu'on ne sait plus taire les noms, qu'on appelle les redoutables chaleurs. Il est venu avec un groupe de gens, commençant à agresser même
lui. Il est de la police nationale?
Il est ni de la police, à ce que je sache, parce que lui fait arrêter même les éléments de la police. C'est ce que nous avons vu hier.
Vous l'avez vu?
C'est un pomba, oui, un pomba qui s'amène avec des motos.
Donc les sportifs?
Je ne sais pas, on dit qu'il est proche d'un parti du pouvoir, que je ne voudrais pas citer ici, pour la modestie. Mais
Donc s'il y a eu répression, ce n'est pas de la part de la police, mais plutôt de la part
d'abord,
des sportifs?
Non, nous avons vu, oui, ces sportifs réprimaient le manifestant.
Et pas la police?
Et la police qui s'en prenait à ces sportifs, arrêtant quelques-uns, quand le roi, le redoutable chaleur apparaît, un coup de fil, nous avons vu, on est venu arrêter même la police. Ça c'est sous ma barbe, deux éléments de la police ont été arrêtés pour une destination que nous ne connaissons pas.
Les éléments de la police ont été arrêtés par qui?
Ils ont été arrêtés, vous savez,
arrêtés
ce qui se passe dans ce pays,
arrêtés
selon certaines informations, certains militaires seraient venus les arrêter.
Non, vous étiez là, vous avez vu les éléments de la police arrêtés par qui?
J'étais là, je vis les éléments de la police arrêtés, je ne sais pas citer encore ici, parce que les éléments n'ont pas été identifiés, mais c'est qui est vrai qu'ils ont été arrêtés.
Ils portaient quelle tenue?
À un seul
tenue de la police,
coup, ils étaient en tenue civile, s'il vous plaît. Ils étaient en tenue civile. À un seul coup de fil de ce monsieur chaleur, que nous déplorons d'ailleurs, qui est devenu un roi redoutable à Kinshasa, qui apparaît dans toutes les manifestations de l'opposition, qui amène le contrepoids et qui vient faire du n'importe quoi. Ça, je crois que c'est aussi le lieu d'interpeller nos autorités, mais aussi que le chef de l'État doit prendre certaines dispositions pour empêcher ces choses, pour que notre police, notre armée, à un certain moment, soit respectée. Ça, c'est d'une part. Mais partout ailleurs, selon certains témoignages, les éléments de la police répriment farouchement aussi le manifestant. Et pourtant, mon estimé confrère Laurette venait...
Laurette,
il disait ici que les manifestations sont garanties par la Constitution.
Merci.
Et le chef de l'État, s'il vous plaît, il est le garant de la Constitution. Mais est-ce que dans une jeune démocratie, on doit quand même permettre aux gens d'exprimer un certain son de cloche? Vous avez vu des télévisions fermées, vous avez vu des journalistes arrêtés.
Merci.
Et je vous informe, même les journalistes, certaines caméras ont été confisquées.
Hier. Par la police.
Par la police, s'il vous plaît.
Merci.
Mais pourquoi? Pourquoi confisquer les caméras, tabasser aussi les journalistes?
Merci, Jean-Pierre Tshisekedi. Merci. Baba Isaac Kalonji, je rappelle que vous êtes journaliste, analyste indépendant, évoluant à Mbujima et au Kasaï oriental. Nous rappelons que mercredi dernier, le gouverneur de la ville de Kinshasa avait interdit cette marche. André Kimbuta a avancé trois raisons, à savoir le conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, donc qui devait organiser cette marche, n'a pas respecté la procédure légale en la matière. Ça, c'est la première raison avancée par André Kimbuta. La deuxième raison, la notification de la marche est parvenue à l'hôtel des villes en retard. Et la troisième raison, le CALCC, donc le Conseil de l'Apostolat des laïcs catholiques, n'est pas répertorié parmi les associations agréées par l'hôtel de ville de Kinshasa. Comment vous analysez ces différentes raisons avancées par le gouverneur de la ville de Kinshasa?
Estimés confrères, je suis d'abord désolé. Désolé du fait que, hormis le fait que les libertés individuelles et collectives des Congolaises et Congolais sont garanties par la Constitution et les textes légaux, mais il y a un phénomène qui fait partie du comportement de notre police. Et êtes-vous d'accord que Presse, Radio Okapi, correcteur des erreurs, redresseur des torts, éducateur et formateur, on puisse s'arroger le droit de laisser faire comme on l'a fait à Kinshasa? Et c'est pas normal. D'abord parce que la marche n'a pas été programmée le jour même. La marche avait été programmée, annoncée, l'information avait été transmise à qui de droit. Mais qu'est-ce que la police a à voir, qu'est-ce que Kimbu tendrait à avoir dans une marche pour autant que la marche avait été déjà annoncée? Pourquoi on ne peut pas laisser à ces gens qui n'avaient pas de bâton, qui n'avaient pas d'armes, qui n'avaient même pas de canif en main, qui marchaient paisiblement? Pourquoi on ne peut pas les laisser s'exprimer? Alors qu'à l'article 23 de la Constitution promulguée par le chef de l'État, accorde la liberté d'expression, de mouvement, de syndicat, de pluralisme médiatique et consorts. Mais est-ce que c'est normal que les mêmes personnes qui ont vu le chef de l'État promulguer la Constitution et sur leur proposition, les mêmes personnes la violent constamment et dans l'impunité, ils sont toujours à leur poste.
Merci.
C'est dangereux. Le pays va vers la déroute.
Merci.
Je ne comprends pas mon confrère.
Merci. Laurel Kankolé, à votre avis, que faut-il faire pour qu'à l'avenir, on puisse éviter ce genre de situation?
Oui, il faudra rappeler une chose, Guy, que l'Église, dans le statut de regroupement que fait Maurice Duverger, pour qui j'ai beaucoup de considération, l'Église est considérée comme un groupe de pression. L'Église n'a pas pour mission la conquête de pouvoir, du reste la prérogative des partis politiques. L'Église a cette mission d'exercer la pression, comme le dit, sur les détenteurs du pouvoir lorsque les choses ne marchent pas. Et au profit, ce peut être également pour la nation, au profit d'un parti politique qui peut en exploiter. Il a été vrai, malheureusement, que la position de l'Église a été instrumentalisée, a été récupérée politiquement. C'est ce qui a fait, entre autres, que l'autorité politique fonde sa tyrannie en humain d'interdire cette marche, malheureusement.
Merci, c'est la fin de cette émission. Alain Ngoy était à la technique et Kaline Koute à la réalisation sous la supervision de Martin Sebou Djangwe. Devant ce micro, Guy Mathieu, merci et bonne suite des programmes sur Radio Okapi.